Écoutez, écoutez bien.
Oui. C'est Bruit de fond avec Thomas Capron.
Oui.
Salut à tous. Aujourd'hui, pour cette première de Bruit de fond sur HDR, je vous emmène à Dieppe, chez Jean-Yves. Jean-Yves qui va nous parler de ce qu'il a vécu lors de l'action humanitaire à laquelle il a participé au Kosovo, en 2000, juste après la fin du conflit entre les Serbes et les Kosovars. C'est à Jakovica, ou plutôt Jakova, qu'il a exercé ses fonctions de logisticien humanitaire pour la réhabilitation et la reconstruction d'habitations. Jean-Yves est alors employé par l'ONG Solidarité, avec un S au pluriel. Mais d'abord, nous évoquons la formation humanitaire que Jean-Yves a suivie à Bioforce.
Donc, j'ai fait un an de formation à Lyon, à Bioforce.
Donc, c'est ça.
Donc ouais. Là, c'était vraiment la préparation pour... l'intitulé de la formation, c'était le logisticien, brevet de technicien logisticien humanitaire, enfin... Ouais. C'est une école qui, sur 9 mois, enfin une année scolaire, te prépare à, t'ouvre un petit peu à tout ce qu'on peut te demander quand tu travailles dans une mission humanitaire. Donc que ça soit la logistique proprement dite, donc gérer des effectifs, des véhicules, des machins comme ça, faire de la gestion, faire de l'encadrement de personnel, faire de la formation de personnel, s'occuper de tâches de sécurité...
Donc, ce genre de choses, c'est une formation assez originale, quoi. Il n'y en a pas beaucoup des formations comme ça.
Il y a que cette école-là en France, et qui était une formation aussi internationale, puisqu'on était une quinzaine de nationalités représentées. C'est en fait ce qui manquait dans l'humanitaire, et c'est les médecins qui, à la base, ont fait la demande disons qu'il y aurait besoin d'une formation comme ça. Les médecins, au début, faisaient tout. Donc, quand ils arrivaient sur une mission, c'était à eux de planter les tentes, éventuellement, de trouver des véhicules, de gérer le personnel, etc. Et donc, tout ça, c'était du temps qui était pris sur leur temps de soins médicaux. Donc, très vite, il y a eu besoin d'avoir des gens qui soient formés à être polyvalents. T'es formé un petit peu à tout, sans rentrer vraiment dans les détails. Et puis après, toi, les matières qui te plaisent le plus, c'est à toi de les développer par toi-même. Mais on t'a ouvert les yeux sur le fait que ça existait. Et au cours de la formation, le dernier trimestre est divisé en trois ou quatre options. Donc moi, j'avais pris l'option réhabilitation, sanitation. Donc tout ce qui touchait le bâtiment, l'eau, et puis la reconstruction.
Et tu savais déjà que t'allais partir au Kosovo ou...
Non, le Kosovo, je l'ai su 15 jours avant de partir. Après, une fois que j'ai... quand j'ai commencé à chercher une mission, après la formation... ça s'est enchaîné très vite, quoi. C'est une de mes collègues stagiaires là, qui travaille dans une ONG sur Paris. Et il recherchait un technicien sur un poste de réhabilitation. Et puis après, ça s'est fait très vite. Donc ça, c'était quasiment juste avant Noël.
Noël combien ?
1999. Et moi, je partais le 18 janvier 2000. Donc, ouais, 15 jours, 3 semaines, ça s'est décidé. Et donc, ouais, après, ça se fait très vite, et puis...
Donc, t'es parti pour le Kosovo, tu connaissais un petit peu la situation, pas tellement, non tu...
Je connaissais un petit peu, parce que on avait des cours de géopolitique à la formation, et on nous avait quand même assez bien expliqué cette zone-là, sachant que c'était tellement à la limite de l'explicable, d'ailleurs. Par contre, oui, après, il y a eu beaucoup d'événements entre la fin de ma formation en juillet 99 et puis janvier 2000. Encore eu 6 mois, donc ça avait changé. La fin de la guerre, entre autres. Et la guerre du Kosovo, c'est une guerre interne à la Serbie. Donc c'est là où le peuple majoritairement albanophone, ouais, donc à peu près 95%, a réclamé l'indépendance. Donc ils ont réclamé l'indépendance après avoir perdu leur autonomie. Donc, à la base, le Kosovo était une province autonome de Serbie. Milosevic a retiré l'autonomie au Kosovo quand il est arrivé au pouvoir. Et, bon, c'était une dictature sous Milosevic. Et au bout de quelques années, les Kosovars sont organisés en armée de libération du Kosovo, UÇK. UÇK.
L'UCK, on dit.
UCK, voilà. UÇK. Donc c'était pour libérer le Kosovo. Les gars attendaient l'indépendance. Et les forces serbes étaient quand même assez un peu plus imposantes que les forces kosovardes. Donc il y a eu des gros massacres de perpétués. L'Europe et les États-Unis, enfin l'OTAN, est intervenue.
Donc tu m'as dit donc l'Europe et l'OTAN, et tu m'avais parlé de la KFOR aussi.
C'est la KFOR, c'est l'armée. C'est le groupement des armées européennes. Enfin,
ah d'accord. Enfin, donc c'est à l'intérieur, c'est l'OTAN en fait, la KFOR.
Oui, oui, oui. Enfin, c'est même plus que l'OTAN d'ailleurs. Parce que tu avais tout. Hein. Tu avais Russie, États-Unis, l'Europe, le Pakistan. Enfin, oui, t'as l'ONU aussi. Mais c'est pas les casques bleus. Donc KFOR, c'était Kosovo, force, je sais pas quoi.
Donc c'était spécifique à cette guerre-là.
Voilà. La guerre, oui. En Bosnie, c'était la SFOR.
Et là, la KFOR est intervenue directement.
Est intervenue en été 99.
Ah d'accord, donc assez rapidement finalement.
Ouais. Oui, donc la guerre s'est finie, je crois que c'est... En gros, c'était en juillet 99. Moi, je suis arrivé en janvier 2000.
D'accord.
Donc 6 mois... Ça faisait à peine 6 mois que c'était fini quand je suis arrivé.
Mélodie Méfiel, une mélodie de flûte par l'ensemble Vranicht. Vous écoutez Bruit de fond sur HDR et nous retrouvons Jean-Yves qui décolle pour le Kosovo rejoindre la mission Solidarité à Đakova.
Et donc ouais, après ce départ... Donc la veille, j'avais rendez-vous au bureau de l'ONG à Paris.
C'était quoi comme association ?
Donc l'association, c'est Solidarité, avec un S au pluriel. Ils me payaient l'hôtel pour la nuit, puis à 5h du mat, je prenais l'avion. Donc j'ai trinqué à mon anniversaire dans l'avion.
T'avais quoi ?
Ben 2000, j'avais 31 ans.
Donc champagne dans l'avion.
Champagne dans l'avion, donc je trinque tout seul.
Ah oui, t'étais tout seul.
Bah ouais.
T'es pas parti avec...
Non, non. Alors des fois, oui, c'est arrivé que les gars partent plusieurs. Là, j'étais tout seul. Donc avec une escale à Budapest. Et ensuite, ouais. Là, je refaisais Budapest, Skopje. C'est la capitale de la Macédoine. Donc on arrivait à Skopje, puisque l'aéroport de Pristina, au Kosovo, donc Pristina qui était la capitale du Kosovo, ouais. N'était pas encore... l'aéroport n'était pas encore ouvert. Et à Skopje, on avait aussi une mission Solidarité qui travaillait en Macédoine. Donc on était accueillis par eux. Donc on m'avait simplement dit, en partant à Paris, que je passais ma première nuit à Skopje, puisqu'on ne roulait pas la nuit au Kosovo. Et en fait, donc en arrivant à Skopje, c'était mon responsable qui est venu me chercher, et qui m'a dit, oui, on rentre maintenant, parce que ça me fait chier de dormir à Skopje. Donc le premier contact avec le Kosovo, c'est tracer de nuit, alors qu'on était censé ne pas le faire. Donc moi...
Ouais,
tu dis, où suis-je? Tu vois rien, tu vois juste des ruines, et puis des silhouettes, des chevaux, des machins, des militaires. Alors, au début, c'est des militaires, entre le Kosovo et la Macédoine, c'était des militaires grecs. Après, il y avait un endroit où on passait un checkpoint avec des Polonais. Après, il y a des ponts qui avaient été détruits et reconstruits par l'armée hollandaise, donc des ponts en métallique. Et là, pour garder les ponts, c'était l'armée russe. Donc l'armée russe, en fait, n'était mandatée par personne pour intervenir au Kosovo. Mais ce sont les premiers qui sont arrivés. Ils ont envoyé des paras. Et donc, l'OTAN s'est retrouvé avec des soldats russes au Kosovo, avec qui il fallait bien composer, puisqu'ils étaient là. Et donc, la Russie s'était dit, oui, l'ère nouvelle est arrivée, maintenant, on va travailler main dans la main. Enfin. Et puis, on existe encore. L'URSS s'est cassé la gueule, mais la Russie est toujours là, et on vous le fait savoir quand même. Et donc, c'était pas prévu dans toutes les résolutions qui avaient été prises. Donc, en fait, le Kosovo a été partagé en plusieurs zones de responsabilité. Donc, avec au nord, Mitrovica, avec la frontière serbe, ils avaient mis les Français, sachant que les Français avaient quand même des relations privilégiées avec les Serbes, dues à l'histoire. Donc, ouais. En se disant qu'ils arriveraient plus à faire tampon que si c'était les Allemands, ça allait pas trop passer. Donc, les Allemands étaient près de la frontière albanaise, entre l'Albanie et la Macédoine. Et moi, j'étais à Pristina, dans la zone sous protection des Italiens.
Mais t'avais une quatrième zone qui était anglaise, c'est ça ?
Et une zone américaine.
Américaine.
Voilà. Après, t'avais des armées, par exemple, dans la zone allemande. T'avais des zones qui étaient sous dépendance de l'armée, ils appelaient ça Poluc. Donc Poluc, en fait, c'est des contingents mélangés Pologne-Ukraine, qui ont des conventions entre eux, un petit peu comme on a maintenant entre la France et l'Allemagne. On a des corps militaires communs. Mmh. Donc eux, ils ont la même chose qu'ils appellent Poluc. Donc eux qui se retrouvaient dans la région allemande. Et donc ben, les fameux Russes, eux, il fallait leur donner une zone, enfin... Ils n'avaient pas vraiment de zone, donc bon, entre autres, il y avait ce bataillon-là qui gardait un pont.
D'accord.
Donc, qui était perdu au milieu de rien, devant une petite vallée où il y avait un grand pont. Ils gardaient le pont, et puis ils se faisaient un peu tirer dessus de temps en temps par les Kosovars. Parce que, bon, en tant que Russes, ils étaient beaucoup plus Serbes qu'Albanais, évidemment. Ah oui, donc, ouais. Ça, ils n'étaient pas trop bien perçus par la population. Et puis, mais les gars, en plus, les soldats russes. Enfin, des gamins, quoi, t'as l'impression qu'ils avaient 16-17 ans. Bon, ils vont en avoir peut-être un peu plus, mais... Enfin, déjà, ils sont bourrés, ils ont peur, ils sont pas attendus du tout là où ils sont. Enfin, ils sont pas aimés où ils sont. C'est normal que ça dégénère dans...
Et puis, ils sont jeunes, quoi.
Même si c'est pas excusable, c'est normal que ça dégénère, quoi.
Kosovo, automne-hiver 1999-2000. Extrait de notes du carnet, prise dehors, et du cahier, écrite le soir, pour tenter de comprendre. Note du cahier. Je suis donc là pour expliquer qu'il ne faut pas boire l'eau sans la faire bouillir. Pour dire au conducteur de charrette à cheval qu'il faut mettre une lumière à l'arrière. Pour dire de ramasser les ordures qui traînent dans les rues. Pour dire qu'un dispensaire s'est ouvert et qu'il est gratuit. Pour leur dire qu'il faut faire vacciner les enfants. Pour leur dire que la violence ne mène à rien, qu'il faut faire la paix, qu'il faut garder l'espoir et bâtir un avenir de paix pour leurs enfants. Qu'il y aura bientôt des élections et qu'il faudra voter. Je suis là pour parler à un public, les Kosovars, Serbes et Albanais, mais aussi Roms, Turcs, Bosniaques. Ce n'est pas un public choisi, bien poli, qui viendrait se distraire ou découvrir des choses, consommer de la culture. C'est un public en urgence. En urgence de vivre, de paix, de cicatrisation, de liberté.
Alors j'arrive à... Sur les cartes, j'arrive à Djakovica. Et dans le contexte, j'arrive à Djakova, qui est l'appellation albanaise de Djakovica. Sachant que toutes les villes au Kosovo ont une double appellation, l'appellation serbe et l'appellation albanaise. Donc, étant parmi une population albanaise, bah, il faut mieux prononcer à l'albanaise.
Ça, tu le savais quand même.
Oui, j'étais très rapidement mis au courant. Et puis, quand je suis arrivé, alors je sais plus si c'était la semaine d'avant ou dans la semaine où je suis arrivé, à Pristina, la capitale, il y a un humanitaire hollandais, je crois, qui, dans la rue, enfin, il y a des gens qui lui ont demandé l'heure en serbe, et il a répondu. Et il s'est pris une balle dans la tête. On se rendait compte que... Alors ça, c'était avant que j'arrive à me débrouiller un peu plus en albanais. Bah, éventuellement, on avait une langue commune qui était le slave. même s'ils n'aimaient pas du tout parler serbe, si c'était le seul moyen de se comprendre, il fallait passer au-delà des inimitiés. Mais c'était très très rare comme démarche. Et donc ça, tu le faisais qu'au bout d'une heure d'incompréhension, où si t'avais réussi à cerner un peu le personnage et te dire que ouais, on allait peut-être pouvoir communiquer là-dessus. Mais il fallait amener ça vraiment doucement, puis il y a des gens, on voyait qu'il fallait pas du tout en parler, quoi.
Donc t'es arrivé au matin, quoi, finalement.
Non, je suis arrivé, vers minuit, dans une grande maison qu'on louait à des propriétaires albanais. Mmh. Et qui, eux, avaient trouvé un autre logement ailleurs. Et donc, dans cette maison, on était 15 Français, tous travaillant pour la même ONG, et tous, des fonctions différentes, sur des programmes différents. Donc, des programmes de reconstruction de l'habitat, des programmes de sanitation, des programmes d'alimentation, etc. Les premiers jours, je visitais un petit peu tous les programmes pour voir comment ça se passait, comment s'organisait la mission. Donc ça me permettait en même temps de voir un petit peu le terrain, de voir les différentes équipes. Alors c'est un milieu assez montagneux,
ouais.
Pas de la montagne très très haute, mais là c'est du gros coteau, un petit peu désertique avec beaucoup de... C'est du chêne nain, enfin des petits monts recouverts de chêne nain. Des routes bitumées qui rejoignent chaque ville, et ensuite tout ce qui distribue les villages et les quartiers, etc., c'est du chemin de terre. Et puis, tu sors pas des chemins, parce que y avait encore des mines partout. Et donc, ça c'était le plus flippant. Enfin, penser vraiment tout le temps où tu vas. Ça c'est quelque chose qui m'a quitté que très très récemment. Et parce qu'après, en retour en France, je restais les pieds sur le bitume. Je marchais pas dans l'herbe dans le bas-côté. Parce que tu t'es tellement mis ça en tête, parce que après c'est vrai que c'est trop con d'avoir un accident comme ça. Tu t'es mis des barrières, quoi. Tu sors pas des sentiers battus. Tu vas pas là où personne n'a marché, où il n'y a pas de traces de pas. S'il n'y a pas de traces de pas, il y a un danger potentiel. Alors, t'en prends conscience dès le début. Pour t'aider à en prendre plus conscience, régulièrement, on organisait pour les expatriés et pour les locaux aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'accidents. Avec les ONG de déminage, ils venaient nous faire des cours théoriques. Sur la reconnaissance des mines, etc. Enfin, savoir là où il faut marcher, là où il faut pas marcher, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Donc, on était régulièrement sensibilisés à ça. Et c'est des opérations qu'il fallait faire régulièrement, puisque dès qu'il y avait une opération comme ça, pendant plusieurs semaines, le nombre d'accidents baissait. Et puis, très rapidement, après, les gens oublient. Et puis, c'est vrai qu'il y a une lassitude à faire attention comme ça à tout. Au bout d'un moment, t'en as ras-le-bol, quoi. Et les gens à nouveau repartaient à la chasse dans des sentiers où il fallait pas, recommençaient à labourer des champs et se faisaient sauter la gueule en labourant. Surtout que la mine antipersonnelle, c'est pas fait pour. La plupart sont pas faites pour tuer. C'est juste fait pour blesser. C'est quand même bien pensé parce que t'as des ingénieurs qui pensent à ça quand même, qui mettent tout leur savoir, toutes leurs compétences à ce niveau-là. C'est que si tu prends une mine antipersonnelle qui tue, t'as un mec en moins. Si t'as la mine qui ne tue pas mais qui blesse seulement, t'as un mec de blessé et t'as quatre mecs qui portent le brancard.
Ah, donc
ça te fait cinq mecs en moins. Et parce que un mort, tu le laisses tranquille, quoi. Enfin, il est mort, tu peux plus rien pour lui. Un blessé, tu t'en occupes. Puis ça casse le moral parce que le blessé, il crie, il a mal, et ça démoralise tout. Ouais.
Que se détache un bout de falaise. Malédiction pour desserrer le joug de l'asservissement. Voilà aussi la mission que s'est donnée Jean-Yves, et nous le retrouverons la semaine prochaine. En attendant, pour toute réaction, un site www.bruitdefond.free.fr. Recherches et mises en voix, Alice D. Relations invitées, Michael Frébourg. Montage et réalisation, Thomas Capron. Bruit de fond, c'est terminé pour aujourd'hui. Salut!
Thank you.